Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme pleine de générosité, au point qu'elle défie les tabous de notre société avec son intervention aujourd'hui. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Salima, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Comment vas-tu?
Très bien, alhamdoulilah, barakallahu fik.
Alhamdoulilah, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui, d'accepter d'apporter une part très intime de ton parcours de vie à notre communauté. Et ça, c'est vraiment toute la générosité des femmes marocaines, des femmes de la communauté de femmes d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment,
avec plaisir,
Salima.
Avec plaisir, Yasmine.
Parce que c'est aussi un droit de la femme, le droit à la procréation.
Tout à fait.
Et c'est un sujet qui te tient très à cœur.
Exactement. Alors, j'ai choisi de partager mon expérience parce que je pense que ça va être utile pour toutes les femmes qui vont se reconnaître dans ce que je vais raconter, dans l'histoire que je vais raconter, et qui ne trouvent pas de réponse à leurs questions.
Mmh. Voilà. Alors, on va y aller petit à petit, Salima. À quel moment de votre mariage avec ton chéri, tu as compris que, ou là, vous avez compris ensemble qu'il y avait un souci? Ça a pris combien de temps avant de se dire, bon, ben, peut-être qu'on devrait aller voir?
Après 4 ans, sachant qu'on prenait de l'âge, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas marié très jeune. Donc moi, au bout de 4 ans, donc j'avais 36 ans.
D'accord.
36 ans, mon mari, 44.
Ok.
Donc, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain âge où on s'est dit, là, il faut prendre les choses en main. C'est-à-dire, si on veut vraiment des enfants, c'est le moment.
C'est le moment de prendre. Et pendant les 4 ans, c'était une période où ce n'était pas grave ou bien il y avait quand même de la frustration?
Ah, bien sûr, c'est des hauts et des bas. Ah. La frustration, il y a des moments de frustration, il y a des moments où on se dit, c'est pas grave, ça va finir par arriver. Et on vit comme ça, avec des moments où on stresse, où on est déprimé, d'autres moments où on oublie, c'est le déni. Et le moment où on prend conscience qu'il faut se prendre en charge ou ma fille abaisse.
Et ma fille abaisse, c'est justement peut-être c'est très tabou. Beaucoup de femmes et des couples, personne n'en parle exactement. On en parle en off, on en parle en chuchotant, mais personne n'en parle. Alors justement, toi aujourd'hui, tu as voulu partager ça. Est-ce que c'est pour dire ma fille abaisse de chercher de l'aide, c'est ça?
Oui, exactement. Ma fille abaisse de chercher de l'aide et d'avoir recours à la procréation médicalement assistée. On vit dans un monde où on mange de moins en moins bien, où on consomme des produits qui impactent notre fertilité et où il y a des personnes dont le corps va mal réagir à tout ce stress, toute cette consommation, l'impact des produits que l'on consomme. Et donc, il faut se prendre en charge pour se donner la chance d'être parent.
Alors,
et les moyens sont là.
Alors, est-ce que c'est cher, justement? Est-ce que c'est cher? Parce qu'en 2016, on avait eu au Maroc le premier centre public de PMA.
Ah, donc ça, je ne savais même pas qu'il y avait un centre public de PMA.
Oui.
Alors oui, c'est cher. C'est cher que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Moi, j'ai eu l'expérience marocaine et finalement, je suis partie à l'étranger. Je suis partie en Espagne.
Ce qu'on devrait peut-être aussi creuser, c'est l'ascenseur émotif du traitement médical et savoir que ça a pris ou ça n'a pas pris.
Ben oui, mais là, il y a une différence entre comment c'est géré ici au Maroc et comment c'est géré à l'étranger.
D'accord. Toi, tu as ressenti ça.
Ah oui. Alors moi, ici, en tout cas, l'expérience que j'ai eue, ça reste une expérience personnelle. Ici, je n'ai pas reçu l'accompagnement dont une femme a besoin pendant cette période de traitement. C'est un traitement qui est lourd, qui peut durer sur plusieurs mois.
D'accord.
Dans mon cas, moi, j'avais besoin d'un traitement sur plusieurs mois. Donc, c'est des traitements qui sont lourds et on a besoin d'être accompagné, que ce soit par le médecin ou par le staff.
Accompagnement psychologique, c'est ça?
Accompagnement psychologique, de pouvoir parler quand on a besoin de parler, si on fait une erreur au niveau du traitement, parce que comme c'est des prises à des périodes bien définies, il faut être très ponctuel, très rigoureux, il faut respecter les horaires, alors on peut faire des erreurs avoir besoin de qu'on te dise bah, c'est pas grave, on peut ça se rattrape, et qu'on le dise de la meilleure manière possible. Et donc pendant tout ce parcours de traitement, avoir cet accompagnement est nécessaire, que ce soit l'accompagnement de professionnels ou là l'accompagnement de la famille et du conjoint. Bien sûr, bien la sûr. Conjointe joue un rôle très important.
Alors, par rapport à ça, alors on va y aller justement, par rapport à tout ce volet personnel, parce que c'est pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui. Quand on démarre l'aventure de la prise en charge médicale, et en même temps, on sait qu'on n'a rien, on n'a aucun problème médical, on est, voilà, c'est peut-être l'hygiène de vie, parce que toi, tu l'as dit, tu n'avais pas d'explication scientifique de cette infertilité, Yek.
Oui, tout à fait. Donc, quand on démarre, c'est-à-dire qu'on accepte, c'est l'acceptation, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on veut devenir parent. Il faut répondre à la question, est-ce que je veux me donner les chances? Oui, non. Est-ce que j'ai les moyens? Donc, comme on a dit, c'est quand même une question de moyens. Il y a des centres publics, comme tu m'as dit, où il y a la possibilité de recourir au privé. Il faut avoir les moyens. Des fois, c'est remboursé. Il y a certaines mutuelles qui remboursent la première tentative. On peut avoir besoin de plusieurs tentatives.
Toi, tu as eu besoin de plusieurs tentatives?
Moi, j'ai eu besoin de plusieurs tentatives. Moi, j'ai fait la première, ça a échoué, et la deuxième a pris.
Alhamdoulilah. Donc, voilà. Maman aujourd'hui.
Maman aujourd'hui, alhamdoulilah, une petite fille.
Tabarakallah. Alors, comment on vit cette grossesse? Est-ce qu'on la vit différemment? Enfin, tu vas me dire, je ne sais pas comment on vit l'autre, mais...
Oui, on peut comparer, parce que moi, j'ai toutes mes amies qui ont eu des enfants avant moi. Donc, c'est des grossesses que j'ai vues, qui étaient normales. Donc, moi, j'ai voulu vivre ma grossesse comme elle. Mais à un moment, on a un rappel du médecin qui va te dire, non, tu n'as pas le droit de faire ceci. Ceci est une grossesse précieuse. Il faut en prendre soin. J'ai eu des difficultés. On peut choisir au moment du transfert d'embryon de transférer un ou deux. Moi, j'en avais transféré deux. J'en ai perdu un en cours de route en pensant avoir perdu les deux. Quand on en perd un en cours de route, on a un rappel à l'ordre, comme quoi ce n'est pas une grossesse normale, qu'il faut en prendre soin. Donc ça, c'est aussi un conseil que je donne aux femmes qui vont rentrer dans ce process, c'est d'être prête à se dire bah, « j'arrête, je peux arrêter mon activité pour atteindre cet objectif qui est cher et que je veux concrétiser ». Et qui est important pour moi. Donc, il faut aussi se préparer sur ce côté-là pour s'arrêter. En fait, si on exerce une activité qui est stressante, prenante, qu'on puisse avoir le luxe de faire une pause.
Toi, tu as fait ça, justement?
Moi, j'ai été arrêtée, mais j'avais la possibilité. Enfin, je travaille, je suis salariée, donc je suis couverte par une mutuelle. Je recevais quand même j'étais rémunérée. C'est un avantage que mon entreprise offre. C'est la moindre des choses. Je pense que l'on puisse donner l'opportunité aux femmes de devenir maman et leur faciliter, en fait, le process. Donc, moi, j'ai eu cette chance. Mais j'étais obligée, alors que je voulais continuer à travailler. Ouais. C'était difficile à vivre. Donc je voulais avoir une grossesse normale et sortir, voir du monde, etc. Mais j'étais obligée de rester alitée pendant 6 mois.
C'est pendant 6 mois quand même, les 6 derniers mois, j'imagine.
Les 6 derniers mois. Mais ça ne se passe pas de la même manière pour tout le monde. Moi, j'ai eu des difficultés. Ça ne veut pas dire que les autres femmes vont vivre
la même
chose.
Oui, absolument. C'est ton histoire à toi, Salima. Tout à fait. Absolument.
Ça reste une grossesse précieuse. Il faut en prendre soin.
Alors,
le message que je veux faire passer.
Cette grossesse précieuse, est-ce qu'après, ça en fait un bébé roi ou un enfant roi à la maison?
Ah oui. Ça, c'est très difficile de ne pas tomber dans ce piège.
Tu es tombée dans le piège en tant que maman?
Ah oui, parce qu'on a fait tellement, le parcours est tellement long, c'est plusieurs voyages, c'est plusieurs séances, c'est plusieurs traitements, c'est un mois de traitement pour ensuite faire une ponction, pour voir combien on va avoir d'ovocytes, pour qu'ils soient ensuite fécondés, c'est toute une histoire en fait. Et donc, et à la fin, quand on a cet enfant devant nous, on peut pas en fait ne pas en faire un enfant roi. c'est plus fort que nous.
Ouais. Mais donc ça continue en fait avec la petite, elle a quel âge aujourd'hui?
Ah, maintenant elle a 4 ans et demi.
Alors c'est elle qui fait la loi à la maison?
C'est elle qui fait la loi à la maison.
Et tu l'assumes, Yek.
Complètement.
Complètement, je le vaux bien. Alors, Salima, tous ces traitements, ils ont quel effet sur le corps? Est-ce que tu as vu ton corps évoluer, changer?
Hormones pour le...
Oui, oui, absolument.
Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai décidé de faire mon traitement en étant en vacances. Donc, j'avais par exemple 15 jours intenses de traitement. Là, c'était juste le traitement post-ponction de stimulation pour prélever les ovocytes. Donc, ces 15 jours-là qui étaient intenses, qui sont très importants, je les ai faits pendant les vacances. Donc, sincèrement, j'ai mis les conditions pour bien vivre cette période, que j'avais mal vécue lors de la première FIF.
Voilà. Alors, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Qu'est-ce qu'on ressent pendant ce traitement? Qu'est-ce qui se passe?
Des hauts, des bas,
d'humeur.
Des déprimes. On peut pleurer pour un rien, et on est irrité. Alors là, on est irrité à un point incroyable.
Ah, les hormones de menstruation, en fait.
Les hormones de menstruation, mais concentrées sur une période et à forte... on peut dire que c'est 10 fois plus intense.
Ouais, femtuk.
Donc la première fois, je l'ai très mal vécu parce que j'ai travaillé en même temps.
Et en fait, tu ne savais pas à quoi t'attendre, en fait.
Et je savais pas
par manque d'informations, justement.
Parce que personne ne partage son expérience.
Ouais, ouais.
Personne. Moi, j'ai cherché l'information toute seule. Je suis allée sur les sites. Alors, par contre, à l'étranger, les femmes parlent sur des forums. Donc, je suis allée lire des forums pour savoir comment ça se passe,
ouais.
pour découvrir un peu le process.
Mais à ton avis, pourquoi les femmes chez nous ne parlent pas de certains sujets qu'elles classent dans la catégorie de tabou? Ce sujet-là, dit-elle, la procréation médicalement assistée, dit-elle, comment la femme vit, la femme, l'humain, la femme, l'individu, l'être humain, mais si la féminité, la femme,
des fois,
il y a aussi le sujet de la préménopause et ménopause. D'ailleurs, ça t'a fait réagir, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui.
Exactement, parce que en fait, je m'apprête à refaire un autre transfert et que j'ai quand même 42 ans et que je prends ce risque dans cette phase-là. Ça, c'est pas un risque. Enfin, maintenant, les femmes peuvent avoir des enfants jusqu'à un certain âge. Mmh. Et c'est là où j'ai réagi à ton intervention à la radio. Et donc, je vais répondre d'abord à la question de la femme. Pourquoi est-ce que c'est tabou? Moi, je pense que c'est pour protéger l'homme.
Ouais.
Parce que les femmes, entre elles peuvent parler.
C'est vrai.
Mais elles ont peur de réduire le climat de la rage. Parce qu'on pense qu'en fait, c'est des fois, on a peur de dire là, c'est de la faute de c'est l'homme qui n'arrive pas à concevoir.
Mm.
Mais c'est juste que des fois, c'est juste inexpliqué. Enfin, comme mon cas, c'est ni mon mari, ni moi.
Ouais, ouais,
c'est inexpliqué. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la principale raison.
Mon il y a peut-être
moi,
aussi.
On n'a aucun problème sur ce sujet. On en parle librement. Lui, limite, il conseille à ses amis qui ont atteint un certain âge, qui vont se marier un peu tard, d'aller directement vers la PMA, de ne même pas perdre de temps.
Mm.
Parce qu'en fait, c'est quand même un processus qui permet de garantir une certaine qualité des embryons, surtout quand on atteint un certain âge. Les spermatozoïdes sont sélectionnés, les ovocytes sont sélectionnés.
Oui.
Vraiment, c'est une sélection.
Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, certains, justement, avantagent leur carrière ou là pour une autre raison, ils se marient beaucoup plus tard, etc., pensant pouvoir procréer rapidement, mais le corps humain, la biologie.
Voilà. La désillusion arrive rapidement.
Absolument.
Face à la volonté d'avoir des enfants.
Mmh. Absolument.
Donc voilà. Donc je pense que c'est un process qu'il faut banaliser. Il faudrait que de plus en plus de personnes en parlent. Pourquoi pas même les influenceuses. Moi j'en connais une qui en a fait. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, Yasmine, mais elle a fait de la publicité, une promotion à un centre de PMA. Mmh. Et j'ai réagi, je lui ai dit, écoute, je pense que éthiquement ça se fait pas parce que c'est quand même, on peut pas faire de la dire vous allez
une garantie, on peut pas garantir parce que ce n'est pas une garantie.
Non, ce n'est pas une garantie. Donc je dis à Allah subhanahu wa ta'ala, nous kandirou al-sabab. Maintenant, je suis dans le donc j'ai tout fait. J'ai préparé mon budget, j'ai organisé mon temps. Ça, c'est pour la deuxième tentative, parce que la première, elle était un peu anarchique.
Parce que par manque d'informations.
Par manque d'informations. La deuxième était très bien organisée, le budget, le timing, les conditions, etc. Donc moi, je lui ai dit, on ne peut pas faire de la publicité pour ça. Et elle s'est confiée à moi, elle m'a dit, j'ai fait 9 films. Je fais, c'est pas possible. C'est pas possible de faire 9 films. C'est inhumain. C'est inhumain. Et donc, je lui conseillais d'aller au centre auquel moi j'ai été. Bon, j'ai pas eu de suite par rapport à son expérience, mais voilà. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elles n'en parlent pas?
Parler de cette difficulté humaine, en fait. De dire, on est des personnes normales. Voilà, ce que vous vivez, on le vit.
Exactement. Elle rendrait service à tellement de femmes. L'impact serait incroyable.
Oui, absolument.
De banaliser le process.
Parce que aussi, je pense, Salima, le point de vue que tu as donné, oui, franchement, tu m'as convaincue par rapport au fait de protéger l'image de l'homme. Mais c'est aussi, je pense, peut-être parce qu'on a envie de préserver l'image de la femme, de la féminité, de la femme.
Oui.
Aussi. Voilà, elle dit que la femme, par exemple, par rapport à ça, qui tombe enceinte, qui est fertile, qui est ce genre de choses, en fait.
Alors moi, j'ai pas pensé à ce point-là qui est très important, parce que moi, je suis de Lila, je n'ai pas ce problème.
Donc, oui, absolument.
Je suis certaine que beaucoup de femmes ressentent... peuvent se sentir sous-évaluées.
Diminuées, ou là, dans leur féminité.
Voilà. Dans leur féminité, tout à fait. Alors, pas du tout, hein. C'est juste qu'on vit dans un monde qui est différent de celui de nos parents, de nos grands-mères, etc. Et donc, il faut l'accepter, puis c'est tout.
Une question, parce que tu as dit, la première, c'était anarchique, la deuxième, j'étais préparée. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire? Mets-toi dans la peau de l'influenceuse qui donne des conseils.
Exactement. Alors, ce qu'il faut pas faire, c'est ne pas être prête. Et il faut être prête physiquement, mentalement, accepter que l'on va faire un traitement pour concevoir, le faire à Wallo. Donc, tout un travail en amont sur soi-même. Ce qu'il faut faire, c'est s'organiser. Vraiment bien s'organiser. C'est-à-dire, comme on prépare un voyage, comme on prépare, je ne sais pas, un changement de travail, comme on prépare Ramadan, comme on prépare, je ne sais pas moi, sa maison pour recevoir des invités, c'est la même chose. Je choisis mon centre, je le choisis de manière bien étudiée, au Maroc ou à l'étranger, selon ses moyens, et je prépare mon budget. Je prépare un budget parce qu'il faut être prêt. Des traitements qui coûtent cher, et c'est une opération qui peut coûter cher, selon le cas.
Il y a aussi la gestion de soi. Ça, c'est le côté, on va dire, administratif, mais il y a aussi le côté émotionnel. Tu en as parlé.
Le côté émotionnel, c'est la famille. Alors, si on a une famille qui va nous soutenir, ben, il faut en parler. Moi, j'avais mes parents, j'avais mon mari... Ma tante, j'ai une tante qui a fait qui m'a beaucoup soutenue. Elle a fait une fille il y a 24 ans. 24 ans. Donc son fils aujourd'hui il a 24 ans et c'est un bébé éprouvette lui aussi. Et donc elle m'a beaucoup soutenue dans le process. Donc si on a autour de soi quelqu'un qui peut nous aider, il faut faire confiance et en parler pour avoir avec le soutien et ne pas garder à 100% tout pour soi. Ou là, juste entre
au niveau du couple.
Dans le couple, au niveau du couple. On a besoin d'un soutien, on a besoin d'en parler.
Prête pour cette deuxième aventure?
Oui, Inch'Allah.
Oui, tu as mis en place tout ça. Tu as aussi le soutien du troisième élément, de ta fille.
Ah oui, c'est extraordinaire, ça va être, Inch'Allah, magique. Bon, Hafidullah, on ne sait pas, comme je le dis, c'est pas gagné, rien n'est garanti, mais il faut se donner les chances pour que ça marche.
Et tu es prête à repasser par le process?
Maintenant, il sera moins compliqué parce que j'ai congelé des embryons.
D'accord.
Donc j'ai des embryons qui sont congelés et du coup, ça sera moins compliqué. C'est un transfert, donc on prépare un transfert.
Ok.
C'est moins complexe que de préparer une ponction plus transfert.
Alors, on dit que normalement, quand on a fait une première grossesse, la deuxième peut venir naturellement, c'est vrai?
Non. Enfin, pas, en tout cas, non. Pas pour moi.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, il n'y a pas de règle.
Règle.
Mais qu'est-ce que tu dis, c'est d'herbe et chacun son vécu, chacun son... Il n'y a pas de règle, voilà.
Eh bien, merci infiniment, Salima. Merci d'avoir amené de ton parcours de vie, de ta générosité à toutes les femmes d'aujourd'hui qui nous écoutent, qui sont peut-être dans ce même parcours, qui n'ont pas d'oreilles attentives, qui n'ont pas de personnes empathiques à qui se confier, à qui parler, avec qui discuter de ça, parce que c'est aussi une histoire de couple. J'aurais voulu qu'on en parle aussi, mais je dois vous laisser partir. Mais Inch'Allah, on pourra, si vous le permettez, revenir aussi sur ce volet-là, parce que ça peut aider beaucoup de femmes. Comment on gère en même temps son couple? Comment on se gère? Parce qu'il y a soi, mais il y a aussi le conjoint. Et le conjoint, ce n'est pas parce qu'il ne porte pas dans ses entrailles qu'il ne ressent rien, qu'il ne ressent peut-être pas de peur, de frustration, etc.
Ouais,
donc,
c'est
comment... Voilà.
C'est ça.
C'est le... Donc, on consacrera un rendez-vous prochainement à cet aspect-là.
Avec plaisir, Yasmine.
Merci
grand plaisir.
Infiniment, Salima. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.